Chapitre 4. Il allait beaucoup mieux. Il devenait plus gros et plus fort chaque jour, s'il était convenable de parler de jour. La lumière blanche et le bourdonnement étaient toujours les mêmes, mais la cellule était un peu plus confortable que celle dans laquelle il avait séjourné. Il avait un oreiller et un matelas posé sur une planche qui faisait office de lit et un tabouret pour s'asseoir. On lui avait donné un bain et on lui permettait de se laver assez fréquemment dans une cuvette d'étain. On lui donnait même de l'eau chaude pour se laver. On lui avait donné des sous-vêtements neufs et une salopette propre. On avait enduit son ulcère variqueux d'une pommade apaisante, on lui arracha le reste de ses dents et on lui donna un dentier. Des semaines ou des mois devaient s'être écoulés. Il lui était maintenant possible de compter le temps qui passe, s'il avait éprouvé un intérêt à le faire, car il était maintenant nourri à intervalles qui paraissaient réguliers. Il obtenait, jugeait-il, 3 repas par 24 heures. Parfois, il se demandait vaguement s'il les prenait de jour ou de nuit. La nourriture était étonnamment bonne, avec de la viande aux 3 repas. Une fois, il y eut même un paquet de cigarettes. Il n'y avait pas d'allumette, mais le garde qui ne parlait jamais et qui lui apportait sa nourriture lui donnait du feu. La première fois qu'il essaya de fumer, il fut malade, mais il persévéra et fit durer le paquet pendant longtemps en fumant une demi-cigarette après chaque repas. On lui avait donné une ardoise blanche avec un bout de crayon attaché au coin. Au début, il n'en fit pas usage. Mais lorsqu'il était éveillé, il était plongé dans une torpeur. Souvent, il restait allongé d'un repas à l'autre, presque sans bouger, parfois endormi, parfois réveillé dans de vagues rêveries où il avait trop de mal à ouvrir les yeux. Il s'était depuis longtemps habitué à dormir avec une lumière vive sur le visage. Cela ne semblait plus le gêner, mais les rêves étaient plus cohérents. Il rêva beaucoup pendant toute cette période, et c'était toujours des rêves heureux. Il était dans le pays doré, où il était assis au milieu de ruines gigantesques, éclairées par un soleil éclatant, en compagnie de sa mère, de Julia, d'O'Brien. Sans rien faire, simplement assis au soleil, parlant de choses agréables. Les pensées, lorsqu'il était éveillé, concernaient principalement ses rêves. Il semblait avoir perdu le pouvoir de l'effort intellectuel maintenant que le stimulé de la douleur fut supprimé. Il ne s'ennuyait pas, il n'avait aucun désir de conversation ou de distraction. Simplement d'être seul, de ne pas être battu ou interrogé, d'avoir assez à manger et d'être entièrement propre était tout à fait satisfaisant. Progressivement, il vint à passer moins de temps à dormir, mais il ne ressentit aucune envie de quitter le lit. Tout ce qui l'intéressait, c'était de rester calmement étendu et de sentir la force revenir dans son corps. Il se palpait ici et là, en essayant de s'assurer que cela n'était pas une illusion, que ses muscles s'arrondissaient et sa peau se tendait. Finalement, il fut établi sans le moindre doute qu'il avait grossi. Ses cuisses étaient désormais nettement plus épaisses que ses genoux. Après cela, à contre-cœur au début, il commença à faire de l'exercice régulièrement. En peu de temps, il pouvait marcher 3 kilomètres qu'il mesurait en arpentant la cellule, et ses épaules voûtées se redressèrent. Il tenta des exercices plus élaborés, et fut étonné et humilié de découvrir qu'il ne pouvait pas les faire. Il ne pouvait accélérer le pas. Il ne pouvait tenir son tabouret à bout de bras. Il ne pouvait rester sur une jambe sans tomber. Il s'accroupit sur ses talons et découvrit qu'avec d'atroces douleurs à la cuisse et au mollet, il pouvait à peine se mettre debout. Il s'allongea sur le ventre et essaya de faire des pompes. C'était sans espoir. Il ne pouvait pas se relever d'un centimètre. Mais après quelques jours de plus, quelques repas de plus, il put accomplir cet exploit. Le temps arriva où il put le faire 6 fois de suite. Il commença à devenir réellement fier de son corps et à caresser l'intermittente certitude que son visage redevenait normal. Ce n'est que lorsqu'il eut la chance de poser sa main sur son cuir chevelu chauve qu'il se souvint du visage défiguré et ruiné qu'il avait regardé dans le miroir. Son esprit devint plus actif. Il s'assit sur la planche du lit, le dos contre le mur et l'ardoise sur ses genoux, et s'attela délibérément à la tâche de se rééduquer. Il avait capitulé, c'était convenu. En réalité, comme il l'a réalisé à cet instant, il avait été prêt à capituler bien avant d'en avoir pris la décision. Dès le moment où il était à l'intérieur du ministère de l'amour, et oui, même pendant ces minutes où lui et Julia étaient restés impuissants alors que la voix de fer du télécran leur disait ce qu'il fallait faire, il avait saisi la frivolité, la superficialité de sa tentative de se rebeller contre le pouvoir du parti. Il savait maintenant que depuis 7 ans, la police de la pensée le surveillait comme un scarabée sous une loupe. Il n'y avait aucun acte physique, aucune parole prononcée à haute voix qu'elle n'eût remarqué, aucune suite d'idées qu'elle n'eût été capable de déduire. Même la tache de poussière blanchâtre sur la couverture de son journal avait été soigneusement remplacée. On lui avait fait écouter des enregistrements, montrer des photographies. Certaines d'entre elles étaient des photographies de Julia avec lui. Oui, même. Il ne pouvait pas lutter contre le parti plus longtemps. De plus, le parti était dans le vrai. Il devait en être ainsi. Comment pourrait se tromper un cerveau immortel et collectif? Selon quelles normes externes pourriez-vous vérifier ces jugements? L'équilibre mental était une statistique. Apprendre à penser comme il pensait était simplement une question d'étude. Seulement. Le crayon était épais et gênant dans ses doigts. Il commença à écrire les pensées qui lui venaient à l'esprit. Il écrit d'abord en grande capitale maladroite. « La liberté est un esclavage ». Puis, presque sans pause, il écrit en dessous. « 2 et 2 font 5 ». Mais ensuite, il y eut une sorte de contrôle. Son esprit, comme s'il s'éloignait, semblait incapable de se concentrer. Il savait ce qui suivrait, mais pour le moment, il ne pouvait pas s'en souvenir. Quand il s'en est souvenu, c'était seulement par un raisonnement conscient. Les mots ne vinrent pas d'eux-mêmes. Il écrivit « Dieu est puissant ». Il accepta tout. Le passé était modifiable. Le passé n'avait jamais été modifié. L'Océanie était en guerre contre l'Estasia. L'Océanie a toujours été en guerre avec l'Estasia. Jones, Aronson et Rutherford étaient coupables des crimes dont ils étaient accusés. Ils n'avaient jamais vu la photo qui réfutait leur culpabilité. Elle n'avait jamais existé. Ils l'avaient inventée. Ils se souvenaient d'éléments contradictoires, mais c'étaient de faux souvenirs, des produits de l'auto-illusion. Comme tout était facile. Une simple reddition et tout le reste suivait. C'était comme nager à contre-courant, d'un courant qui vous fait reculer même si vous luttez, et puis soudainement vous décidez de faire demi-tour et de suivre le courant au lieu de s'y opposer. Cela ne change rien, sauf votre propre attitude. Ce qui devait se produira de toute façon. Il savait à peine pourquoi il ne s'était jamais rebellé. Tout était facile. Sauf. Tout pouvait être vrai. Les soi-disant lois de la nature étaient absurdes. La loi de la gravité était une absurdité. O'Brien avait dit « Je pourrais flotter sur ce sol comme une bulle de savon ». Winston a trouvé la solution. S'il pense qu'il flotte sur le sol, et si je pense simultanément que je le vois, alors il le fait. Soudain, comme un bout d'épave immergé rompt la surface de l'eau, une pensée éclata dans son esprit. Ça n'arrive pas vraiment. Nous l'imaginons. C'est une hallucination. » Il repoussa cette pensée instantanément. Le sophisme était évident. Il présupposait que quelque part, en dehors de soi-même, il y avait un monde réel où de vraies choses se passaient. Mais comment pourrait-il y avoir un tel monde ? Quelle connaissance avons-nous de quoi que ce soit, si ce n'est par notre propre esprit ? Tous les événements sont dans l'esprit. Ce qui arrive dans l'esprit arrive réellement. Il n'y eut aucune difficulté à se débarrasser de cette erreur. Et il ne risquait pas d'y succomber. Il se rendit néanmoins compte que cela n'aurait jamais dû lui venir à l'esprit. L'esprit doit développer un mur infranchissable chaque fois qu'une pensée dangereuse se présente. Le processus doit être automatique, instinctif. Arrêt du crime, c'est ainsi qu'on l'appelait en novlangue. Il s'est mis au travail pour s'exercer à l'arrêt du crime. Il soumettait à son esprit des propositions. Le parti dit que la terre est plate. Le parti dit que la glace est plus lourde que l'eau. Et il s'entraînait à ne pas voir ou à ne pas comprendre les arguments qui les contredisaient. Ce n'était pas facile. Il fallait de grandes puissances de raisonnement et d'improvisation. Les problèmes arithmétiques soulevés, par exemple, par une affirmation telle que 2 et 2 font 5, étaient au-delà de son intelligence. Il fallait aussi une sorte d'athlétisme de l'esprit, le pouvoir tantôt de faire l'usage le plus délicat de la logique, tantôt d'être inconscient des erreurs de logique les plus grossières. La stupidité était aussi nécessaire que l'intelligence, et aussi difficile à atteindre. Pendant ce temps, une partie de son esprit se demandait à quel moment il l'abattrait. Tout dépend d'O'Brien, mais il savait qu'il n'y avait pas d'acte conscient par lequel il pourrait écourter l'échéance. Ça pouvait être dans 10 minutes ou dans 10 ans. Il pouvait le garder pendant des années en isolement, il pouvait l'envoyer dans un camp de travail, il pouvait le libérer pour un certain temps, comme parfois c'était le cas. Il était parfaitement possible qu'avant qu'il ne soit tué, tout le drame de son arrestation et de son interrogatoire soit promulgué à nouveau. La seule chose certaine était que la mort ne venait jamais quand on l'attendait. La tradition tacite que l'on connaissait, bien que l'on ne l'avait jamais entendu dire, c'est qu'il vous tirait dessus par derrière, toujours à l'arrière de la tête, sans avertissement, alors que vous marchez dans un couloir de cellule en cellule. Un jour n'était pas la bonne expression, probablement au milieu de la nuit. Une fois, il tomba dans une étrange et heureuse rêverie. Il marchait dans le couloir, en attendant la balle. Il savait qu'elle arriverait à un autre moment. Tout était réglé, lissé et réconcilié. Il n'y avait plus de doute. Plus de disputes, plus de douleurs, plus de peurs. Son corps était en bonne santé et fort. Il marchait facilement avec une joie de mouvement et avec la sensation de marcher au soleil. Il n'était plus dans les étroits couloirs blancs du ministère de l'amour. Il se trouvait dans l'énorme passage ensoleillé, large d'un kilomètre, au long duquel il avait cru marcher au cours d'un délire provoqué par des drogues. Il était dans le pays doré. Suivant le sentier qui traverse les vieux pâturages tondus pour les lapins, il pouvait sentir le gazon court et élastique sous ses pieds et le doux soleil sur son visage. Au bord du champ se trouvaient les ormes, et quelque part, plus loin, il y avait la rivière où, sous les saules, dans des étangs verts, nageaient des nymphes. Soudain, il reçut un horrible électrochoc. La sueur coula le long de sa colonne vertébrale. Il s'était entendu crier à haute voix « Julia, 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 mon amour, Julia !» Pendant un instant, il eut une hallucination bouleversante de sa présence. Elle semblait être non seulement avec lui, mais en lui. C'était comme si elle était entrée dans la texture de sa peau. À ce moment, Il l'avait aimé bien plus qu'il ne l'avait jamais fait lorsqu'ils étaient ensemble et libres. Il savait aussi que quelque part elle était toujours vivante et avait besoin de son aide. Il s'allongea sur le lit et essaya de se ressaisir. Qu'avait-il fait ? Combien d'années avait-il ajouté à sa servitude par ce moment de faiblesse ? Plus tard, il entendrait le bruit des bottes à l'extérieur. Il ne pourrait pas laisser un tel débordement impuni. Il saurait maintenant, s'il ne l'avait pas su avant, qu'il romprait l'accord qu'il avait passé avec eux. Il obéissait au parti, mais il détestait toujours le parti. Dans le passé, il cachait un esprit hérétique sous une apparence de conformité. Maintenant, il avait reculé d'un pas. Il s'était soumis en esprit. Mais il avait espéré garder inviolé le fond de son cœur. Il savait qu'il avait tort. Mais il préférait se tromper. Il comprendrait. O'Brien le comprendrait. Tout avait été avoué dans ce seul cri insensé. Il lui faudrait tout recommencer. Cela pourrait prendre des années. Il passa une main sur son visage, essayant de se familiariser avec la nouvelle forme. Il y avait des sillons profonds dans les joues. Ses pommettes étaient pointues, son nez aplati. En outre, après l'épisode du miroir, on lui avait donné un dentier complet. Il n'était pas facile de préserver l'impénétrabilité lorsque vous ne saviez pas à quoi ressemblait votre visage. En tout cas, le simple contrôle des traits ne suffisait pas. Pour la première fois, il comprit que si vous voulez garder un secret, vous devez également vous le cacher à vous-même. On doit savoir qu'il est toujours là, mais il ne faut pas, tant que ce n'est pas nécessaire, le laisser émerger dans la conscience, sous n'importe quelle forme qui pourrait être identifiable. Désormais, il doit non seulement penser droit, il doit se sentir bien, rêver bien. Et pendant ce temps, il doit garder sa haine enfermée en lui comme une boule qui fait partie de lui-même. Et pourtant, sans lien avec le reste de son corps. Une sorte de kyste. Un jour, il déciderait de lui tirer dessus. On ne pouvait pas dire quand cela se produirait, mais quelques secondes avant, il serait peut-être possible de le deviner. C'était toujours par derrière, en marchant dans un couloir. 10 secondes suffiraient. En 10 secondes, son monde intérieur pourrait se retourner. Et soudain, alors, sans un mot prononcé, sans un arrêt de son pas, sans qu'un muscle de son visage ne bouge, le masque serait jeté. Et bang ! Les batteries de sa haine lanceraient leur décharge. La haine le remplirait comme une énorme flamme rugissante. Et presque dans le même instant, bang ! Il se ferait tirer dessus. Trop tard ou trop tôt. Ils auraient explosé son cerveau en morceaux avant qu'il ne puisse le récupérer. La pensée hérétique serait impunie, non repentie, hors de leur atteinte pour toujours. Ils auraient fait un trou dans leur propre perfection. Mourir en les détestant, c'était la liberté. Il ferma les yeux. C'était plus difficile que d'accepter une discipline intellectuelle. C'était une question de dégradation, de mutilation personnelle. Il avait dû plonger dans la plus sale des saletés. Quelle était la chose la plus horrible et la plus répugnante de toutes ? Il a pensé à Big Brother. L'énorme visage, parce qu'il le voyait constamment sur les affiches, il le représentait toujours faisant 1 mètre de large, avec sa lourde moustache noire et les yeux qui vous suivaient partout, semblait flotter dans son esprit de son propre chef. Quels étaient ses véritables sentiments envers Big Brother ? Il y eut un lourd piétinement de bottes dans le couloir. La porte en acier s'ouvrit d'un coup sec. O'Brien entra dans la cellule. Derrière lui se trouvait l'officier au visage de cire, et les gardes en uniforme noir. « Lève-toi !» a dit O'Brien. « Viens ici !» Winston se tenait en face de lui. O'Brien lui prit les épaules entre ses mains fortes et le regarda de près. « Tu as eu l'intention de me tromper ?» dit-il. « C'était stupide. Tiens-toi plus droit. Regarde-moi en face. » Il fit une pause et continua sur un ton plus doux. « Tu t'améliores. Intellectuellement, il y a très peu de mal en toi. Ce n'est qu'émotionnellement que tu as échoué. Dis-moi, Winston, et souviens-toi, pas de mensonge. Tu sais que je suis toujours capable de détecter un mensonge. Dis-moi, quels sont tes véritables sentiments envers Big Brother ? Je le déteste. Tu le détestes ? Bien. Alors le temps est venu pour toi de faire le dernier pas. Tu dois aimer Big Brother. Lui obéir n'est pas assez. Tu dois l'aimer. Il libéra Winston en le poussant vers les gardes. « La salle 101 !» dit-il.